ce soir sur Campus Grenoble
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonjour à toutes et à tous, on vous retrouve aujourd'hui dans un apérophonie. Nous sommes des membres de l'association Think What Matters, lancée l'année dernière. Vous nous avez peut-être déjà entendus dans un apérophonie précédent où nous avons été interviewés, et cette fois c'est à nous de prendre la parole. Du coup, on vous propose un concept d'émission avec trois invités. Et aujourd'hui, nous parlons du sujet des projets locaux et des différents organismes grenoblois qui leur viennent en soutien et en aide. Nous accueillons donc Elisabeth Deben de Grenoble Alme Métropole. Bonjour.
Bonjour.
Et Jérémy Hamel de la Casemate. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi une troisième membre de l'association qui nous rejoint pour nous raconter une expérience assez originale dont elle vous détaillera plus tard. Bonjour Estelle.
Bonjour.
Alors, pour commencer, nous allons nous présenter. Nous sommes donc deux à animer cette émission. Donc, moi-même, Oriane et Sarah.
Bonjour.
Donc, aujourd'hui, nous avons dit, nous accueillons Elisabeth Deben. Donc, vous êtes vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole et vous êtes en charge des produits, vous êtes en charge de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre poste et sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire?
Alors, première chose, ce n'est pas un poste, je suis élue. Donc, vice-présidente en charge de l'économie sociale et solidaire et circulaire, c'est quelque chose d'un peu nouveau pour la métropole parce que c'est une délégation qui dépendait de la valorisation des déchets sur le mandat précédent, qui était inclus donc dans une autre délégation. C'est le signe d'une volonté forte de la métropole de mettre l'accent particulièrement sur l'économie sociale et solidaire et donc de la mettre en valeur et de la déployer. Mon rôle, c'est donc d'accompagner, de soutenir et de promouvoir cette économie sur la métropole, en accompagnant les porteurs de projets et les structures dépendantes de l'ESS.
Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'ESS pour ceux qui ne connaissent pas?
Alors, c'est un bon début, effectivement. L'économie sociale et solidaire, déjà dans son titre, on l'entend, c'est une économie qui est sociale, qui est profondément sociale. Elle est encadrée par la loi depuis juillet 2014. Et du coup, ce qui a permis de vraiment définir ce qu'était l'économie sociale et solidaire et de permettre aussi aux structures d'avoir des soutiens et d'être dans un cadre. Mais sinon, c'est une économie qui a toujours existé à travers des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations. Et c'est des sociétés qui ont un objectif d'utilité sociale. Donc ça a toujours existé finalement, hein, mais c'est vraiment reconnu et encadré et passé dans l'économie classique, disons, depuis assez peu de temps, puisque la loi date de 2014. Alors ce qui est intéressant dans cette loi, c'est qu'elle définit les principes de l'économie sociale et solidaire. Il y a trois principes fondamentaux. C'est une économie dont le but, d'abord, n'est pas le profit. Et ça, c'est fondamental, mais c'est d'abord l'utilité sociale et environnementale. Vous verrez, on en parlera sûrement par la suite, mais c'est quelque chose qui change tout au niveau de l'esprit des choses et de la façon de vivre l'économie. La deuxième chose, c'est une gouvernance qui est démocratique et partagée, c'est-à-dire qu'il y a une voix, une personne, une voix. Et la troisième chose, c'est que tous les bénéfices de la structure sont réinjectés dans l'entreprise. Il n'y a pas de dividendes et pas de profits personnels liés à l'économie sociale et solidaire. Alors on l'aura compris, tout ce qui est par rapport au profit est quelque chose de secondaire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, hein, mais l'utilité sociale est le premier but de l'économie sociale et solidaire. Il y a aussi trois choses qui sont fondamentales. C'est qu'elle doit être un soutien aux personnes qui sont en situation de fragilité. Deuxièmement, c'est lutter contre les inégalités. Et troisièmement, c'est contribuer au développement durable.
Ok, super. Donc, il y a beaucoup d'intérêt dans cette forme d'économie. Et quels sont les types de structures? Enfin, vous l'avez un peu déjà dit, mais comment ça se concrétise, les structures de l'économie sociale et solidaire? Quelle forme ça peut prendre?
Alors, ça peut prendre beaucoup de formes. En fait, quand je vous dis que le profit n'est pas le premier élan de l'économie sociale et solidaire, c'est un aspect très important, parce qu'une économie sociale et solidaire vient d'un besoin. Elle naît sur un territoire en face d'un besoin. Donc c'est une économie qui est profondément incarnée sur un territoire et qui n'est pas délocalisable quelque part. Ça crée des emplois sur un territoire. Alors c'est dans différents aspects. Au niveau de la métropole, on soutient particulièrement l'économie sociale et solidaire liée à l'alimentation, au transport, aux mobilités. Qu'est-ce que je peux vous donner ? Il y a une foison d'exemples, en tout cas sur le bassin métropolitain. Ça peut être lié à l'alimentation, comme des épiceries solidaires. Vous avez peut-être entendu parler d'Épisol, par exemple. C'est une épicerie en centre-ville qui permet d'avoir différents tarifs selon les moyens des personnes, avec des adhésions différentes. Donc ils sont approvisionnés par des surplus du mine, du marché de gros. Et ils ont aussi une mobile, ce qu'ils appellent un petit camion, une épicerie mobile qui va dans des quartiers un peu défavorisés, qui fait à la fois office d'épicerie, mais qui fait aussi du lien, qui répond aux questions, qui permet... Il y a beaucoup de gens qui viennent leur parler, finalement, donc qui créent du lien dans le quartier. Enfin, il y a beaucoup d'aspects différents comme ça. Après, il y a toute l'économie sociale et solidaire liée au réemploi. Des ressourceries, comme Ulysse, comme La Remise. Voilà, enfin, je peux vous en donner beaucoup encore.
Oui, on a beaucoup d'exemples sur Grenoble, c'est vrai. Et donc, oui, vous avez bien souligné l'ancrage local que ça apporte. Et au niveau des emplois, est-ce que vous avez des chiffres, par exemple, de combien d'emplois ça peut apporter dans le bassin grenoblois ?
Sur le bassin grenoblois, c'est 10% de l'économie. C'est environ 100 000 emplois sur le bassin grenoblois. Donc, ce n'est pas anecdotique, hein. C'est vraiment quelque chose d'important et qui se développe également. Alors, la période de confinement, paradoxalement, a déployé encore ces structures-là par des personnes qui se sont reconverties, qui ont perdu leur emploi ou se sont retrouvées au chômage par le confinement, qui ont réfléchi à des choses, qui ont monté des projets. Il y a aussi des étudiants qui montent des projets par rapport à une difficulté rencontrée particulière, ou pas difficulté d'ailleurs, hein, mais pour créer du lien. Donc c'est quelque chose qui se déploie et il y a une vraie dynamique et une vraie joie. C'est un milieu dans lequel il y a un dynamisme, un enthousiasme et une envie de prendre l'avenir à pleine main et de le construire et de le changer.
Ouais.
C'est plutôt enthousiasmant comme délégation.
Ouais. Un des adages de l'économie sociale et solidaire, c'est le bien plutôt que le bien. Non, le lien plutôt que les biens, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est assez récent, vous l'avez dit, à l'échelle de la métropole. C'est un service qui a été
c'est,
créé.
C'est pas récent. Le service lié. Cette délégation particulièrement dédiée à l'économie sociale et solidaire, elle date de l'année dernière, les élections de 2020.
Ok.
Alors, elle existait déjà, mais elle était rattachée à une autre délégation. C'était un élément parmi une délégation plus vaste de la gestion des déchets ou de l'économie globale.
Ok. Et du coup, c'est assez lié aussi à l'économie circulaire ou ça n'a rien à voir ?
Alors, si, ça a quand même à voir, parce que souvent, l'économie circulaire est souvent issue de l'économie sociale et solidaire, quoique pas que. Il y a aussi des structures de l'économie classique qui sont d'économie circulaire. Et puis, c'est beaucoup plus vaste que l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire ? C'est vraiment une économie qui vise à changer de paradigme, en fait, par rapport à ce qu'on l'oppose à l'économie linéaire. L'économie circulaire, c'est tout ce qui fait en sorte de limiter tout ce qui est gaspillage des ressources, jusqu'aux déchets, enfin jusqu'à ce qu'on peut plus se servir de l'objet. Donc c'est aussi dans tous les domaines, hein. C'est à la fois dans le réemploi, dans la gestion des déchets effectivement, mais c'est aussi de l'économie circulaire dans l'industrie. On a un bel exemple à Pont-de-Claix-Jarry avec des industries fortes qui mutualisent des produits, qui mutualisent des services. Voilà, après, il y a beaucoup de choses.
Ok. Et l'ESS ne se positionne pas comme une économie alternative, du coup ?
Alors, oui, on appelle ça une économie alternative. Moi, j'aime pas beaucoup parce que c'est un peu la placer en dehors, alors que je pense qu'elle fait vraiment partie du paysage économique. Et que, pour moi, c'est une économie qui doit être moteur et qui doit amener toute l'économie à être sociale, finalement. Le but, c'est pas... Enfin, il faut qu'on change ce paradigme de faire toujours plus d'argent pour faire de l'argent, mais que l'économie soit réellement au service de l'humain. Et je pense que ça changera beaucoup de choses. Ça changera aussi nos sociétés. Et toute l'économie peut se tourner vers un plus d'humain et puis être au service de l'humain. Ça n'empêche pas de faire de l'argent, hein, mais qu'il y ait du sens. Qu'il y ait du sens et une utilité. C'est bon pour l'humain d'abord, parce qu'on est quand même au cœur de notre environnement. Et si on ne travaille pas pour le bien-être de l'homme, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis pour l'environnement. Parce que du coup, on rentre dans un plus grand respect et puis une démarche de construction positive, de sortir du carbone et puis d'essayer d'aller de l'avant avec tout ce qu'on sait, avec les rapports du GIEC qui sont plutôt... qui peuvent être très angoissants. Mmh. Je pense que c'est un levier pour relever les manches et se dire qu'on est capable de changer les choses et qu'on est capable aussi de se créer un avenir qui soit meilleur et tel qu'on a envie de le vivre vraiment.
Oui, c'est sûr. Et donc, la métro, enfin Grenoble Métropole Alpes, quel est son rôle dans le soutien à ces projets-là, par exemple ?
Et on a un chemin directeur, un peu, pour... En politique, c'est toujours... On a toujours des... des plans, voilà, de travail sur du long terme. Là, on s'est fixé un plan sur trois axes. Un qui est plus d'accompagner, de promouvoir et de développer l'économie sociale et solidaire. Sur un deuxième plan, c'est de soutenir des structures en marche, j'allais dire, qui se mettent en route. Donc on soutient des porteurs de projets qui, sur 3 ans en général, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un stade où ils arrivent à se débrouiller un peu plus. Et puis troisième, je ne sais plus.
D'accord. Et donc ce soutien aux porteurs de projets, c'est par quels moyens ?
La métropole ne travaille pas seule sur ce sujet, bien évidemment. On travaille en lien avec des structures d'accompagnement. On est très, très en lien avec, par exemple, Ronalpia, avec Capberia, qui sont des incubateurs, qui sont des structures incroyables, qui accueillent des porteurs de projets, qui ont une vraie technicité, qui ont une vraie... plus-value de formation, d'accompagnement, que ce soit au niveau construction du projet, modèle économique, financement, installation. Et on a aussi, voilà, le troisième domaine que j'ai oublié tout à l'heure, c'est un accompagnement aussi au niveau de... On a 3 hôtels d'activité sur la métropole, hein, à Fontaine, un à Chirol et un à Grenoble, qui sont des lieux de mutualisation de locaux. Enfin, non, j'exagère, c'est pas de la mutualisation de locaux, mais c'est des endroits, des bâtiments avec pas mal de surface, à la fois d'ateliers, de bureaux, où on permet à des structures de s'installer avec des loyers progressifs en fonction de leur avancée, en fonction de leur... et avec un accompagnement de la métropole et des structures qui nous accompagnent.
D'accord, donc vous êtes là pour donner un peu une impulsion et une aide au départ à ces projets d'ESS.
On est là pour les faire connaître, on est là pour les mettre en valeur, on est là pour les soutenir vraiment et puis les impulser quelque chose. On est là aussi pour prospecter en dehors de la métropole, voir ce qui se fait ailleurs et comment le dupliquer sur la métropole en tenant compte du terreau et des écosystèmes.
Ok. Donc globalement, c'est des projets qui répondent à des problématiques locales ?
Systématiquement.
Systématiquement, c'est un des critères ?
C'est profondément incarné sur un territoire, oui.
D'accord.
Un des critères, c'est l'utilité sociale, c'est... c'est que ça crée de l'emploi également, c'est que ça répond à une utilité. Voilà.
Ok. On peut peut-être ouvrir la discussion. Je ne sais pas si l'un de vous a une question à poser sur ce sujet. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples de projets qui ont très bien fonctionné et qui sont vraiment ancrés aujourd'hui dans le territoire grenoblois ?
Ça va être difficile d'en citer un ou deux plutôt que d'autres. Je vais me faire taper sur les doigts.
C'est un signe que c'est un succès.
J'en ai plusieurs en tête, peut-être des plus récents. Je pense à Daba Consigne, qui a été très accompagné par Ronald Pia. Qui s'est fondé sur un réel besoin, là, pour le coup. Hein. Vous savez que y a une loi anti-gaspillage qui est sortie en 2020, qui va s'étaler jusqu'à 2040, avec des périodes de 5 ans. Ces 5 années jusqu'à 2025, c'est tout axé sur la sortie du plastique jetable. Donc, ces porteurs de projets se sont dit, bon, ben, forcément... les restaurateurs qui font de la vente à emporter, quand on achète un repas chez un traiteur, tout est emballé, on a des emballages à mettre à la poubelle à la pelle. Donc elles ont travaillé un concept de consigne. Donc elles louent, entre guillemets, oui, elles donnent des contenants en verre aux restaurateurs avec qui elles sont en partenariat, qui les donnent à leurs clients, qui les ramènent à plusieurs endroits possibles. Et ces contenants sont lavés et retournent chez... Bon, c'est une boucle, pour le coup, circulaire. Ça évite du gaspillage, de jeter du plastique. Ça crée du lien aussi, parce qu'il y a une petite marque sur les restaurants partenaires, et ça fait un peu communauté, etc. Et elles ont très, 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 très bien marché. Quand je dis ça marche très, très bien, parce que ça répond vraiment à un besoin. On est à une période où on a besoin de ça, où c'est aussi dans l'air du temps, ça a du sens, c'est vraiment important et ça répond très bien, oui.
Oui, donc un projet qui est à la fois social, avec un aspect environnemental et qui recrée du lien entre les gens.
Absolument.
Oui, et j'imagine que ça donne espoir aussi de voir toutes ces initiatives et tous ces porteurs de projets qui s'engagent au final et qui essaient de donner plus de sens.
C'est très enthousiasmant. C'est vraiment important parce qu'on a quand même toute une frange de la société qui, par rapport au rapport du GIEC, par rapport à l'écologie, par rapport au réchauffement climatique, sont très sombres. Il y a plein de jeunes qui ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils se disent « mais dans quel monde je vais les... » Eh bien, de ce côté-là, ce n'est pas ce qu'on voit. On voit des gens qui ont envie d'avancer, qui ont des projets, et quelque part, quelque chose de très négatif, on va droit dans le mur, eh ben, on s'en empare pour vivre autre chose, pour changer de paradigme, pour changer les curseurs, pour aller au-delà. Et je pense que c'est vraiment possible.
Oui.
Donc il y a quelque chose qui est finalement plein d'espérance. Je pense d'abord pour notre société, et puis pour l'environnement, et puis pour notre, pour les générations qui arrivent. C'est aussi important de sortir des habitudes, de se dire qu'on a dans les mains quelque chose de précieux. Je ne dis pas ensemble, hein, mais chacun. Et que de chacun peut sortir une idée, quelque chose qui va aller plus loin, qui va permettre à d'autres de continuer. Bon, moi je trouve qu'il y a quelque chose vraiment de joyeux et qui donne envie de se relever les manches et puis d'y aller, quoi.
Ouais, c'est là tout l'intérêt de soutenir des projets locaux et de SS. Et donc, une autre structure grenobloise qui accompagne des porteurs de projets, c'est la Casemate. Donc, Sarah, je te laisse présenter notre invité.
Merci. Donc, nous allons laisser la parole à Tristan Hamel. Qui travaille à la Casemate et qui va peut-être, Tristan, tu peux te présenter, nous présenter ton travail à la Casemate, présenter la Casemate également.
Oui, bien sûr. Alors, bonjour à toutes et à tous. D'abord, j'avais peut-être une petite question par rapport à l'ESS que j'ai pas eu le temps de poser. C'était quels secteurs d'activité sont le plus représentés au sein de l'ESS au niveau de la métropole ? Quand j'entends ça, c'est si on reprend les trois grands secteurs d'activité. Alors, parce que comme vous parliez de l'économie un petit peu de demain, en mettant en relation avec les rapports du GIEC. Moi, c'était, ouais, est-ce que l'agriculture prend plus de place? Je ne sais pas, l'industrie, quelle place à l'industrie? Ou en tout cas, la transformation de matières premières au sein de cette ESS? Ou est-ce que c'est comme l'économie actuelle qu'on a en France, très service?
C'est difficile à dire sur la métropole parce qu'il y a plein de petites structures qui se développent dans des thèmes différents, hein, que ce soit dans l'aide aux personnes âgées, dans le lien social, dans l'alimentation. Mais au niveau de la métropole, on met un accent particulier sur l'économie circulaire autour du réemploi. Il y a une structure qui ouvrira bientôt, je l'espère, un centre de l'économie circulaire en plein Grenoble, avec une SIC qui s'est formée en 2020, qui s'appelle Fabrica Nova, et qui regroupe une dizaine de structures de l'économie sociale et qui sont toutes dans le champ du réemploi. Alors c'est peut-être ce domaine-là qui en ce moment est sur lequel on met davantage le focus parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire à grande échelle sur la métropole et que dans tout ce plan de valorisation des déchets, c'est quelque chose qui enfin, il y a encore beaucoup de choses à construire. Hein. La métropole de Grenoble est assez avancée sur le sujet, hein, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
Très bien.
Merci beaucoup. Est-ce que du coup on peut retourner à notre question principale qui concerne donc la casemate et ton poste à la casemate?
Donc moi je m'appelle Tristan Hamel et je suis facilitateur à la casemate, c'est pas simple à dire, depuis 2016. Donc avant l'incendie qui a eu lieu en 2017, dont on va peut-être parler. Mon travail, en quoi est-ce qu'il consiste? Mon travail, il consiste à faire de la vulgarisation technique, c'est-à-dire on va essayer de transmettre, d'être passeur autour des savoir-faire. Contrairement à d'autres personnes, notamment des bibliothécaires, je pense à ça, parce que c'est une référence que je prends pas mal pour comparer un petit peu les Fab Labs, essayer de comprendre un petit peu ce que c'est. On est des passeurs de savoir-faire, et donc autour de la fabrication, de manière très générale. Notre spécificité, comparée à d'autres lieux, c'est qu'on va avoir, et on va faire de la fabrication numérique. Donc on va avoir des machines à commande numérique. Ça va être notre grande spécificité. Et notre travail à nous, c'est d'être médiateur, c'est un autre titre qu'on peut avoir aussi, entre les machines et les gens. Mais principalement avec les gens, et notamment lorsqu'on travaille à plusieurs.
D'accord, merci. Et est-ce que tu pourrais peut-être nous définir un peu plus précisément ce qu'est un Fab Lab en soi?
Oui, tout à fait. Alors, un Fab Lab, ça rentre dans la grande famille. C'est comme ça qu'on l'a défini en France après plusieurs rapports nationaux. Ça rentre au sein de la grande famille de ce qu'on appelle les ateliers de fabrication numérique. Qu'est-ce qu'un atelier de fabrication numérique? C'est un atelier de fabrication où on utilise des machines qui sont pilotées par des ordinateurs. Ça, c'est de manière très globale. À l'intérieur de ces ateliers de fabrication numérique, il existe tout un panel de lieux qui se définissent par rapport à eux-mêmes. On va retrouver des makerspaces qui sont un petit peu plus récents, d'autres lieux qu'on appelle des hackerspaces, donc ça c'est pour les anglicismes. Un autre anglicisme, mais celui de Fab Lab, et après il en existe plein d'autres, parce qu'il y a plein d'endroits où en fait on partage, ou en tout cas on met en commun un certain nombre d'outils qui nous permettent de produire. La spécificité des Fab Labs dans tout ça, c'est que déjà en France, il y en a énormément. C'est quelque chose qui vient des États-Unis, donc du MIT, qui émane du MIT, et qui a pris vraiment plein de formes différentes. Les Fab Labs en France, on en trouve un petit peu plus de 1500 aujourd'hui. D'accord. Il y en a partout sur le territoire. On est le deuxième pays où il y en a le plus au monde. Ça, après les États-Unis, et on n'est pas loin de passer devant. Ça dépend de comment on les classe, ça dépend de plein de choses. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est d'abord un espace où on peut se rencontrer. Bon, ça, c'est un lieu, d'accord. C'est un endroit où on va, où on sait qu'on va voir des gens, il va y avoir des personnes, on va pouvoir discuter avec eux. Si en France, on en a beaucoup, C'est, alors ça, c'est le travail de Flavie Genacio, qui est doctorante à l'Université de Grenoble. Et elle, elle montre un vrai rapprochement avec l'éducation populaire. Dire que cette tradition d'éduc-pop qu'on a en France, elle se concrétise aujourd'hui autour des outils et de la manière dont on peut se les réapproprier dans ces espaces-là que sont les Fab Labs, et c'est pour ça qu'on en a autant en France. Après, qu'est-ce que c'est concrètement un Fab Lab ? Ça dépend clairement de l'endroit dans lequel on va. Nous, à la Casemate, on est le premier Fab Lab qui a ouvert dans un centre de sciences, donc au sein de la Casemate, le CCST de Grenoble, pour Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle. Notre spécificité, nous, c'est vraiment lié sur la médiation technique, aussi scientifique, mais on est davantage sur l'aspect technique. Et du coup, notre travail, ça va être d'expliquer comment ça marche et de regarder, d'essayer d'apprendre ensemble et surtout d'apprendre en faisant par soi-même. C'est ça, la démarche.
D'accord, donc on est sur un aspect vraiment technique, on est sur du service et sur la création de choses concrètes, on va dire. Et du coup, vous accompagnez des gens, donc des particuliers, personnels, etc. Mais est-ce que vous accompagnez également des porteurs de projets, justement, au sein de la Casemate, au sein du Fab Lab de la Casemate ?
Alors, au sein du Fab Lab de la Casemate, effectivement, on accueille des porteurs de projets, des particuliers, on accueille aussi des professionnels, on accueille des scolaires, on accueille tout le monde, grosso modo. Comment ça se concrétise lorsqu'on fait de l'accompagnement de projet ? Ça dépend de la structure qui vient, de la manière dont c'est amené, et de ce que nous, on peut faire. Est-ce qu'on le fait ? Oui, dernièrement, l'année dernière, on a eu quatre résidences. Il y en a trois qui étaient liées plus à la fabrication. Une quatrième résidence qui, elle, était liée aux médias. Et donc, moi, je vais plus parler de celles qui sont liées à la fabrication, mais on a eu trois projets qu'on a accompagnés au fur et à mesure sur 8 mois, même plus, parce que il y a eu les différents confinements. On a eu un projet orienté art numérique, autour des arts numériques. On peut le dire comme ça, même si lui se définit davantage comme un plasticien. Mais au sein des arts numériques, il y a des plasticiens. Où le principe, c'était de travailler sur un prototype d'un mécanisme à intégrer au sein d'une œuvre un petit peu plus large. Ça impliquait de la fabrication. Mais c'est aussi quelqu'un qui est formateur en ébénisterie, donc, en termes de fabrication, on n'avait pas grand-chose à lui transmettre, sauf autour de la fabrication numérique, mais là, c'est une autre chose. C'était davantage autour de l'électronique, de l'embarquer, et de générer des dispositifs qui soient autonomes. Donc lui, il a été accompagné là-dessus. Ensuite, il y en a eu deux autres. Donc on a eu Véronica Holzer, qui, elle, est collaboratrice dans un cabinet d'archi. Et à côté de ça, elle est designeuse et elle a travaillé sur un projet qui s'appelle le projet Quitte Enfance. Ce projet, le principe, c'est d'avoir un mobilier qui soit le plus neutre possible, selon ses termes. En fait, c'est un meuble, on peut en faire ce qu'on veut avec, et c'est les enfants qui le font eux-mêmes, pour répondre à leurs différents besoins. Et ça vient simplement du fait qu'elle, en allant se promener dans une très grande enseigne de meubles suédoise, ses enfants voulaient tout acheter. Donc, d'un, ça coûte cher. Deux, ça prend beaucoup de place. Et donc, finalement, elle s'est dit, mais peut-être que c'est quelque chose sur lequel moi, je peux travailler. Elle était déjà venue au Fab Lab pour réaliser un proto et une première version que ses enfants utilisaient. Et puis, finalement, elle a passé le pas. Elle est venue en résidence et à ce moment-là, bah, nous, on l'a accompagnée pour arriver sur un projet fini. J'ai parlé que de deux projets pour le moment, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Le troisième, c'est celui que moi j'ai accompagné, qui est un projet qui a pour but d'avoir des toilettes sèches mobiles. Alors ça peut paraître un petit peu étrange, mais... Mais oui, c'est Willy qui portait ça avec l'association Cyclique. Enfin, c'est l'association Cyclique qui porte le projet, mais c'est Willy qui était la personne suivie en résidence. Là, on est sur des choses beaucoup plus grosses et plus grandes que les deux autres projets, puisqu'il s'agit de repenser, de manière générale, l'ensemble de l'assainissement en termes de politique publique. Ça, c'est leur objectif vraiment plus global. Ça, ça se concrétise autour d'un premier prototype de toilettes sèches mobiles qu'ils avaient réalisé lors de ses études d'architecte. Puis, une deuxième version qu'ils ont réalisée qui était un petit peu mieux. Et là, le principe, c'était d'arriver à une version quasiment finale, un dernier prototype, avant de pouvoir lancer une commercialisation. Et que ce soit ce prototype-là qui puisse subir le temps de voir, une fois qu'on le met dans la rue, de voir combien de temps il tient, qu'est-ce qui se passe, comment vraiment les gens l'utilisent dans le temps, et pas simplement de l'expérimentation éphémère. Donc le but, c'est que ce sont des toilettes sèches, mais qu'on peut transporter en vélo. Voilà.
D'accord.
Sans image, c'est un petit peu plus compliqué.
Effectivement, mais on voit le principe, je pense. Et du coup, j'ai l'impression que quand même, les projets qui sont accompagnés par la Casemate, souvent vont, on va dire, aller dans le sens d'initiatives durables, par exemple avec le meuble qui va durer dans le temps, qui va éviter de pousser à la consommation, les toilettes sèches également, même la démonstration, enfin le premier projet également, il me semble, tient à montrer les effets de la déforestation. Est-ce que c'est un critère pour l'association de choisir des projets qui seront en lien avec le durable, etc.
Effectivement, les projets qui sont choisis doivent s'intégrer plus ou moins dans le développement durable.
D'accord, c'est un des critères local et développement durable. Ok, ça marche. On va peut-être du coup, comme tout à l'heure, ouvrir les questions à tout le monde. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Ça représente combien de personnes qui sont inscrites? Enfin, j'ai pas forcément compris. C'est des adhésions aussi par rapport au fonctionnement. Et du coup, ça représente combien de personnes à peu près qui font partie de la communauté à Grenoble?
Alors, c'est normal parce que j'ai pas du tout abordé la question. non, donc chaque Fab Lab a un fonctionnement qui lui est propre. Chaque espace, ce qu'on appelle l'atelier de fabrication numérique, a un fonctionnement qui lui est propre. Nous, on a un mode de fonctionnement qui est basé sur des abonnements. Grosso modo, pour pouvoir venir utiliser le lieu, il faut un abonnement. On a deux types d'abonnements. On a un abonnement qui est plus à destination des professionnels, mais qui est ouvert à tout le monde, comme espace de coworking ou quoi, enfin voilà, qui est ouvert à tout le monde, qui est l'abonnement premium. Mais sinon, on a un autre qu'on a choisi d'appeler loisir, parce qu'il y a énormément de gens qui viennent comme utiliser le lab ou faire des choses par pur hobby, comme plein d'autres, il est comme plein d'autres hobbies, quoi. Comme une passion qu'on fait, deux choses qu'on fait à côté du travail. Donc ça, ces abonnements, ils varient d'un mois sur l'autre, d'une année à l'autre. Nous, on vient de rouvrir le lieu depuis le 2 septembre. Depuis le 2 septembre, par mois, on a à peu près une trentaine d'abonnés. Enfin, je dis une moyenne, mais non, c'est que depuis un mois. Donc c'est pas une moyenne, mais on a une trentaine d'abonnés. Et après, ça varie vraiment. Là, comme on vient de rouvrir, nous, on peut pas avoir une communauté ou un nombre de personnes qui viennent très importante. C'est le temps que tout se relance, parce que depuis l'incendie de 2017, on a eu un tout petit Fab Lab, qui était notre Fab Lab temporaire, qu'on a réussi à remonter, à avoir des gens et surtout à permettre à tout le monde de venir utiliser. Mais là, aujourd'hui, on a à peu près une trentaine.
Et une trentaine par mois, ça veut dire quoi en termes de fréquence sur les lieux?
Alors, effectivement, une trentaine de personnes depuis qu'on a rouvert, ça peut paraître assez peu, mais en termes de fréquentation, on a bien plus de personnes que cette trentaine de personnes pour le moment. On touche à peu près 100 à 150 personnes par mois, voire plus, en tant que personnes qui viennent utiliser le lieu. C'est-à-dire pas simplement des abonnés, des gens qui viennent utiliser des machines, qui viennent nous poser des questions, qu'on aide sur des projets, quand il y a de l'électronique ou pas du tout, en termes pour bricoler ou faire des choses. Là, on a bien plus de monde qui vient. Et après, en plus de ça, on a une autre fréquentation qui, elle, est plus liée au fait que ce sont des gens qui passent simplement pour visiter, pour venir voir, découvrir le lieu. Et ça, j'ai pas les chiffres en tête.
Moi, j'avais une question sur les deux porteurs de projets. Est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que c'est ponctuel? C'est-à-dire, ils viennent se former à quelque chose en particulier qu'ils vont développer après, ou est-ce que c'est un projet qu'ils font et ils passeront à autre chose après ? Alors, les toilettes sèches, il y a quand même une volonté de le commercialiser et de le développer. Donc c'était vraiment le début du projet qui était maturé à la Fab Lab. Et ensuite, ils se débrouillent tout seuls, c'est ça ?
Exactement. Le principe, c'est qu'on a un espace de prototypage autour d'objets plus ou moins tangibles. En général, des objets tangibles. Donc dans ce cadre-là, effectivement, les personnes qui viennent nous voir... C'est dans l'optique de fabriquer quelque chose. Et par la suite, il y a d'autres acteurs sur la métropole ou ailleurs qui effectivement peuvent les accompagner lorsqu'il s'agit de monter vraiment autre chose. Nous, on est là pour faire du prototype, de la preuve de concept déjà, avoir une réalisation concrète. On ne fait pas non plus de très grandes séries, on n'est pas un équipement industriel. Donc voilà.
D'accord.
Écoutez, je vous remercie pour toutes ces réponses et on va faire une petite pause musicale avec une chanson de l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp, « So many things to feel guilty about ».
Well, to do a job they hate, for doing things badly when I'm in a rush, for being stressed and ratty with the people I love.
Alors c'était l'orchestre tout puissant Marcel Duchamp et on reprend notre émission. Et c'est au tour d'Estelle, du coup membre du collectif Think What Matters, de nous présenter sa petite expérience atypique de cet été.
Ok. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Alors, moi cet été, j'ai suivi une formation qui s'appelle le T-Camp, donc Transition Camp en anglais. Qui a été créé en 2019 par les associations Colibri et Campus de la Transition. C'est une formation qui expérimente en fait une nouvelle pédagogie, qui s'appelle la pédagogie tête-corps-cœur. Et le principe, c'est de passer 2 mois en immersion avec des intervenants spécialisés dans plusieurs domaines qui ont des liens avec la transition écologique. Donc, en fait, c'est tous les domaines, clairement. Il y aura des spécialistes en finance, sur le climat, sur les questions d'énergie, sur les questions de gouvernance, de démocratie. Toutes les questions un peu très intellectuelles de la transition écologique, donc la partie tête. Ensuite, pour la partie corps, donc c'est une expérience qui est en immersion, comme j'ai dit. On va vivre dans des écolieux tout au long de cette formation et se déplacer un peu dans la France entière. Donc vivre avec les gens, partager des moments avec eux, aussi vivre entre nous. On est un groupe de 30 étudiants et on expérimente entre nous les idées de nouvelles formes de prise de décision, de nouvelles... démocratie, comment régler les conflits, de comment vivre en collectif, donc concrètement. Et donc ça, c'est la partie corps. Et puis la partie cœur, une partie qui est très oubliée aujourd'hui. Donc c'est un peu apprendre à se connaître, apprendre à analyser ses émotions, ce qu'on ressent, pour pouvoir discuter avec les autres concrètement de nos problèmes, pour arriver en fait à ce que les discussions ne soient pas ne posent pas de problème et débloquer les problèmes en fait qu'il y a entre les individus, donc se connaître soi-même pour mieux interagir en groupe. Je ne sais pas si ça a été très clair ce que j'ai dit.
C'est très clair, t'inquiète pas.
Du coup, si vous avez des questions.
Vous avez fait, avoir fait plusieurs écolieux, vous êtes allé où?
Oui, donc principalement, la formation, elle a lieu en Seine-et-Marne. Donc c'est le lieu qui a choisi le campus de la Transition, qui est une association pour s'établir. C'est un château qui s'appelle le château de Forges. Oui, c'est un château. Et c'est en fait un écolieu où il y a non seulement des formations qui sont avec des étudiants qui viennent se former sur beaucoup de sujets qui viennent donc sur le château, et en même temps c'est un lieu d'habitat partagé, donc qui est vraiment un écolieu de vie où les gens vivent en collectif, développent de nouvelles façons d'habiter, de travailler. Et ça, c'est le lieu principal de la formation. Et ensuite, on a choisi tous un peu des spécialités. Il y avait 3 thèmes. Donc moi, j'avais choisi dynamique des territoires. Et donc, j'ai fait un voyage qui était plutôt dans le sud-ouest de la France, donc dans l'Aveyron, dans l'Ardèche. Et je suis allée, je peux vous donner des noms d'écolieux. Donc je suis allée à Sainte-Camelle, je suis allée à Terra.
C'est quoi leur particularité?
Oui, donc c'est des, c'est, donc en gros au total, j'ai fait 8 écolieux. Donc c'est peu, oui. Hein, parce qu'en France aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de, je vais pas dire n'importe quoi, mais je crois qu'il y a plus de 200 écolieux. Donc après, c'est pas tous des écolieux de formation, enfin dans lesquels on peut aller en touriste entre guillemets. Il y en a qui sont juste des lieux de vie où on peut pas. Interférer avec les gens.
Est-ce que tu peux nous dire plus précisément ce qu'est un écolieu, ou qu'est-ce qui se retrouve entre les différents écolieux que tu as pu vivre et expérimenter?
Bien sûr. Du coup, en fait, il y a autant de définitions d'écolieux que d'écolieux en France. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Donc, ils fonctionnent vraiment tous différemment. Ils ont tous leurs propres règles. Mais pour donner un peu mon point de vue sur qu'est-ce qu'un écolieu, ça serait... un endroit où les gens essayent de vivre en collectif, principalement, de vivre en collectif et de mutualiser donc, leur habitat en premier, et puis ensuite certaines sources de revenus, d'imaginer en fait une micro-société qui serait un peu beaucoup plus collective et beaucoup plus mutualisée. Voilà. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que moi, avant, je me disais, un écolier, en fait, ils essayent de recréer une mini-société très, très en marge, enfin très à côté de ce qui se fait de notre société d'aujourd'hui. Et en fait, en allant dans beaucoup d'écolieux, donc il y en a qui sont autarciques, mais il y en a une grande majorité qui, en fait, cherche à s'intégrer sur le territoire et à faire partie de la dynamique du territoire. Donc, et en fait, ils sont très en lien avec la mairie, avec bon, la région parfois, et avec les associations locales, avec les maraîchers locaux. En fait, c'est pas du tout, ils cherchent pas à être autonomes en tout, en fait. C'est pas le but du petit lieu, c'est plutôt une volonté de relocaliser, c'est un mot très à la mode, mais vraiment les activités et de participer à une dynamique plus locale sur les territoires.
Ok. Et qu'est-ce que tu en as retenu justement de ces expériences dans ces écolieux ? Qu'est-ce que le campus de la transition t'a apporté ? Enfin, l'expérience globalement, qu'est-ce que ça t'a apporté ?
Bah, du coup, déjà, j'ai vraiment vécu dans des écolieux. Donc déjà, ça, c'est une expérience qui est quand même hyper importante. Quand moi, je trouvais ces fonctionnements assez... comment dire, utopique, et je me faisais des idées de ouais, c'est genre fou que ces lieux existent, bah, d'aller les voir, ça les rend très concrets, ça les rend, bah ouais, en fait, c'est pas si compliqué, enfin, non, ça c'est pas vrai. C'est toujours compliqué parce que c'est les fonctionnements collectifs, c'est toujours, on peut pas dire que c'est simple, hein. C'est sûr que c'est plus simple d'être tout seul, de chercher une maison tout seul et de fonctionner avec soi-même. Donc déjà, quand on est en couple, c'est plus compliqué. Alors, quand on vit encore plus dans un gros groupe, c'est encore plus compliqué. Mais c'est tellement riche. Et donc, oui, ce que je retire, c'est que j'ai vu vraiment que c'était possible. J'ai vu des lieux qui ont plus de 30 ans. J'ai pu parler avec les gens. Je pense que, principalement, ce que j'ai vraiment aimé dans cette formation, c'est qu'on a fait tellement de rencontres. On a rencontré donc des spécialistes, on a rencontré des habitants lambda qui essayent de vivre autrement. On a rencontré des associations et genre vraiment de rencontrer des gens après en plus cette période de Covid qui était assez triste. Et ben ça remotive, ça débloque un peu des choses où on se disait ouais mais moi je sais pas si je peux faire quelque chose dans ce monde, et en fait ça redonne de l'espoir, peut-être un petit peu comme l'économie sociale et solidaire, d'avoir vécu ces choses-là.
Ok. Et est-ce que cette expérience de vivre en collectif, ça permet aussi de créer, de co-innover, de co-créer, de co-innover, de trouver des solutions ensemble ? Est-ce qu'il y avait ce genre de démarche ?
Bah oui, bien sûr. Oui, c'est sûr que c'est pour ça que je dis que il faut pas croire que c'est simple de faire des écolieux ou de faire des projets collectifs, mais par contre c'est très riche, et donc la richesse c'est que déjà les projets peuvent être plus ambitieux parce qu'on est un groupe, les gens se partagent le poids du projet, donc c'est vraiment plus simple quand on n'est pas obligé d'être soi-même toujours à tirer le truc, mais que tout le monde est un peu moteur à tour de rôle. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et je trouve que ça montre qu'en en collectif, on peut arriver à faire plus de choses que tout seul. Et je pense que c'est une des leçons aussi que je retiens de cette expérience.
Oui. Et vous avez parlé avant, Tristan, de comme quoi la casemate est aussi un lieu de rencontre. Est-ce que c'est des choses qu'on retrouve aussi là-bas de travailler ensemble, de s'aider pour aller plus loin, ce genre de choses ?
Complètement. Le principe du Fab Lab, c'est que c'est un endroit où on vient et on est un maximum en autonomie. Nous, on est là pour faire que les gens puissent être autonomes. L'intérêt d'avoir plein de gens qui sont plus ou moins autonomes, c'est que du coup, ils peuvent se filer des coups de main entre eux. Nous, on est là pour filer des coups de main. On est un petit peu référent sur les questions, mais surtout, eux, ils peuvent se filer des coups de main entre eux lorsqu'ils viennent individuellement. Et après, il y a plein de gens qui viennent en groupe aussi pour faire des choses à plusieurs. Parce qu'effectivement, en général, quand on est à plusieurs, on peut faire plus de choses. En tout cas, différemment. Mmh. On va parler d'intelligence collective, on va parler de tout ça, mais voilà.
Ouais, c'est sûr. Construction.
Moi, j'ai une petite question par rapport aux écolieux. C'est où est-ce qu'ils se trouvent plus ? Sur la campagne, en ville
Oui, donc c'est vrai que ça, je n'ai pas précisé. Les écolieux, ça regroupe donc en fait des éco-quartiers qui sont plutôt en ville et des éco-villages, enfin oui, ou des écolieux. En fait, principalement, c'est vrai que c'est des endroits dans la campagne, donc c'est en ruralité qu'on va trouver beaucoup d'écolieux. Tout simplement parce qu'il y a un intérêt, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai visité, il y avait l'intérêt de voir comment ça pouvait aussi redynamiser des territoires. Donc, les villes ne sont pas des endroits qui ont besoin vraiment d'être redynamisés. Et donc...
Quoique.
Enfin, en tout cas, les écolieux que moi, j'ai suivis dans la dynamique des territoires, c'était plutôt dans les milieux ruraux, dans les villages, enfin, proches de villages qui se vident de leur population pour essayer d'inverser la donne et de montrer en fait que c'est quand même un mode de vie qui est aussi très agréable. Parce qu'en fait, c'est vrai que beaucoup de gens qui fondent des écolieux sont d'anciens citadins, en fait, qui ont forcément une appétence pour la transition écologique, enfin voilà, une sensibilité forte pour la transition, mais qui, oui, ont décidé de partir en campagne pour se rapprocher aussi de la nature et pour développer des projets dans des endroits où il y a peut-être plus besoin de certains projets qu'en ville.
Merci beaucoup Estelle de nous avoir raconté ton expérience qui est très très intéressante. C'est bientôt la fin de l'émission, donc on va passer un peu à une phase de débat final, discussion à propos de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. On avait une question ouverte, hein, donc pas forcément évident d'y répondre, je vous laisserai la parole après, mais comment l'ESS, le soutien aux projets locaux à travers le prototypage et à travers la participation à des écolieux, amène, parce que c'est quand même le sujet principal de notre association, et participe à une transition en fait écologique, centrée un peu sur l'écologie. En quoi en fait ça va développer ça ? Chacun respectivement, si vous avez des...
Mais, c'est un peu ce que je partageais tout à l'heure, participer à l'écologie. Moi, je suis très... on est face à un mur. Voilà, il faut qu'on sorte du tout carbone. Il faut qu'on réduise nos consommations. C'est un fait. Donc, on est acculé à de l'écologie, de toute façon. Et puis, la loi nous entraîne là-dedans, que ce soit de n'importe quel bord politique, hein, parce qu'on est face à un constat qui, maintenant, n'est pas nié, est vraiment reconnu, et c'est un fait. L'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, elle contribue à la transition parce qu'elle nous fait entrer dans un mode de consommation raisonné. Je cherchais mon mot. C'est sortir de la consommation à tout prix, c'est sortir de la consommation de produits dont on ne regarde pas une responsabilité aussi écologique. Savoir ce qu'on consomme, pourquoi. Et du coup, forcément, on arrive à une vie un peu plus... sobre.
Sobre,
voilà, une sobriété de vie qui n'est pas réductrice, hein, qui n'est pas, mais voilà, et c'est contribuer à l'écologie dans le sens que chacun on prend ses responsabilités, on a moins d'impact sur l'environnement, on contribue à le préserver, et comme je disais tout à l'heure, hein, ça fait boule de neige quand on prend soin de l'environnement ou de soi, et ben on prend soin des autres et on prend soin de l'environnement. Et le collectif est complètement... toutes les démarches qui tournent autour de l'écologie amènent à plus de démocratie, amènent à plus de collectif. C'est comme si c'était un effet boule de neige, quoi. On prend soin de l'environnement, donc on prend soin de nous parce qu'on fait partie de l'environnement. Et tout s'enchaîne.
L'environnement est difficilement séparable du social, du partage.
Ben, tout à fait, surtout que... Alors, je suis très, très... très positive, mais c'est vrai que l'écologie, il faut qu'on fasse attention, parce que les premiers touchés par la crise écologique et sociale, ce sont les plus démunis. Donc c'est pour ça que l'économie sociale et solidaire touche aussi à cet aspect d'être au plus près des besoins des plus démunis aussi, pour les embarquer dans cette démarche écologique aussi, et qu'ils soient debout.
Oui, alors les projets qui sont liés de près ou de loin à l'écologie au Fab Lab, c'est vraiment une vaste question. Pour moi, ça dépend de l'objectif qu'on a et de ce qu'on veut en faire. Parce que derrière, on peut toujours trouver a posteriori une justification en disant que ce qu'on a fait c'était écolo ou pas. Qu'est-ce qui fait qu'on vient et qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'apprendre par soi-même? Qu'est-ce qui fait qu'on vient se former? Qu'est-ce qui fait qu'on vient faire quelque chose? On peut prendre deux exemples caricaturaux. Il y a les toilettes sèches où du coup, là, on est sur quelque chose qui paraît, en tout cas, de prime abord, sans étude particulière ou quoi, mais quelque chose qui tend vers cette transition écologique. Par contre, à l'opposé, au Fab Lab, on peut faire utiliser des imprimantes 3D pour imprimer plein de petites figurines et de têtes de Yoda. C'est du plastique, ça a beau être un bioplastique, c'est du plastique qui a nécessité énormément d'énergie pour être produit, et en plus le fait de le faire, ça rajoute encore une couche. Mais si on vient le faire pour apprendre à utiliser une machine à commande numérique qui elle-même nous permet de nous donner le pouvoir d'aller plus loin et de faire autre chose par la suite, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui est super intéressant dans le fait de faire une petite figurine de Yoda. Ça dépend de ce qu'on en fait et à quoi ça sert.
Eh bien, on n'a plus trop de temps, mais je pense que Estelle, on a bien compris la dimension écologique dans ton parcours. Donc, merci beaucoup à tous et toutes d'être venus. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc, juste pour le rappeler, Think What Matters, on est un collectif d'étudiants pluridisciplinaires engagés autour de la transition écologique. Et on refera des émissions comme ça dans les prochains apérophonies. Merci à tous et c'était une super expérience.
Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ? Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.